Pour ce jour, nous allons lire dans deux textes. Le premier sera dans le livre du prophète Daniel, chapitre 12, versets 1 à 13. Daniel, chapitre 12, les versets 1 à 13. C'est 1, s'il vous plaît. C'est 1 à 13. Et le second, c'est l'évangile selon Marc, au chapitre 13, les versets 24 à 32. Mais avant, nous allons prier pour demander au Seigneur d'éclairer pour nous cette parole que nous allons entendre. Seigneur, nous voulons écouter ta parole maintenant. Et tu sais combien, au-dedans de nous, nos pensées peuvent nous distraire. Notre prière, c'est que tout en nous se taise maintenant. Et que seul, Seigneur, ta voix se fasse entendre ce matin. Nous désirons que ta parole, que tu vas relâcher sur nous, Seigneur, trouve dans nos cœurs un terrain fertile, afin de porter les fruits que toi tu désires. Merci, Seigneur, de bénir ce moment. Merci, Seigneur, d'utiliser puissamment ton serviteur, mais, Seigneur, de réduire au silence tout esprit qui ne te confesse pas dans ces lieux, au nom de Jésus-Christ. Amen. Daniel 12, 1 à 13. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. À toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, « Quand sera la fin de ces prodiges ?» Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps, et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où seront dressées l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'aux 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Marc, chapitre 13, 24 à 32. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lumière ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors, il enverra les anges et il rassemblera les élus des quatre vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'Éternel est, que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Amen.
Pas chanter, c'est bien. C'est de ça qu'on va parler. Mon frère, ma soeur, sois intelligent. Dis à ton voisin, sois intelligent. Voilà ce que nous tirons de Daniel, chapitre 12, les versets 3. Et le verset 10, sois intelligent mon frère, sois intelligent ma soeur. Tu le seras en discernant ce que Dieu fera demain et même comment il le fera. c'est que Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. En considérant ce que Dieu a fait avec son peuple, Israël, hier, tu comprendras ce qu'il fait avec nous, avec toi, aujourd'hui. Et Daniel, dans ce chapitre 12, prophétise sur les temps de la fin. Il est décrit comme étant une époque de détresse pour Israël. Un peu l'accomplissement de la prophétie de Jérémie 30, verset 7. Daniel dit que ceux qui auront l'intelligence comprendront ces choses. Quelles sont donc ces personnes intelligentes? C'est ceux qui aiment Dieu. Ce sont les chrétiens enracinés et en intimité profonde avec le Seigneur. Les chrétiens qu'on qualifie de spirituels. Mon frère, ma soeur, sois spirituel. Dis-le à ton voisin. Le texte de Marc, le deuxième texte, Marc 13, 24 à 32, est le morceau du milieu d'un texte qui constitue le discours de Jésus sur la fin des temps. On dit en langage approprié discours eschatologique. Il se passe sur le mont des Oliviers. Et pour pouvoir comprendre ce morceau du milieu, il faut lire le texte, le discours tout entier. Dans ce discours, Jésus nous parle de la fin du monde. Et il nous enseigne sur au moins quatre choses. Dans notre texte, on a vu la raison des signes dans le ciel, le retour de Jésus, le rassemblement des élus de Dieu par les anges, l'enseignement du figuier, et nous reparlerons chronologiquement de ces événements. Parce que dans les divers textes, il n'est pas présenté de façon chronologique et ça peut perturber la compréhension. Parlons donc du contexte immédiat de ce texte. Le Seigneur Jésus est à la fin de son ministère. Plusieurs ont placé leur espoir en lui, s'attendant à ce qu'il prenne, qu'il occupe le trône de David pour libérer son peuple Israël. En sortant donc du temple, le mont des Oliviers en face du temple, il s'asseye et Jésus annonce à ses disciples un événement terrible, la destruction prochaine du temple de Jérusalem. Répondant ainsi à une question qu'un des disciples lui avait posée, en lui présentant la splendeur et la beauté du temple, les pierres, et la construction du temple. Ça, c'est au verset 1er de Marc 12, de Marc 13. Ces Juifs se rappellent que la première destruction de ce temple en l'an 168 avant Jésus-Christ s'était soldée par l'exil du peuple d'Israël à Babylone, c'est-à-dire la perte de leur souveraineté nationale. Les disciples ne comprennent donc pas ce que Jésus leur annonce. Et ils posent des questions. Quand est-ce que ces événements vont se produire? Et Jésus répond. En répondant, il distingue trois phases. La première phase, le commencement des douleurs de l'enfantement. C'est dans les versets 1 jusqu'à 23. Voilà tout ça, comment ça se passe. La phase 2, les jours de détresse comme il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde. Et pour cela, il y a eu vraiment des événements terribles avec la destruction en l'an 70 après Jésus-Christ de ce temple de Jérusalem par les soldats romains. La troisième phase, c'est la venue du Fils de Dieu de l'homme, la venue du Fils de l'homme, entouré de nuées ou bien sur une nuée, selon les versions de la Bible, avec grande puissance et gloire. C'est ça notre texte, le texte de notre message d'aujourd'hui. Mais avant d'y arriver, nous allons voir dans le contexte. Il y a des choses qu'il faut tirer du contexte immédiat pour comprendre le reste. Jésus parle donc des signes de la fin. Il les présente ainsi. Il y aura des faux Christ et des faux messies qui tenteront de séduire, si c'était possible, même les croyants. Il y aura des guerres et les bruits de guerre. Il y aura des calamités naturelles, tremblements de terre, tsunamis, famines, etc. Il y aura les persécutions. Des croyants seront traînés devant les tribunaux. Les familles seront désunies, disloquées à cause du nom de Jésus. Donc il y aura la guerre même dans les familles. Donc ne soyez pas surpris si dans les familles ça ne va pas. Dès que il y a une racine de Jésus dans une famille, la guerre est déclenchée. Si on vous persécute dans votre famille, c'est normal. Craignez même si on ne vous persécute pas. Mais l'autre signe sur lequel je vais m'attarder, c'est qu'il faut que l'évangile soit prêché à toutes les nations avant que ces choses n'arrivent. Cela nous interpelle. L'évangile prêché à toutes les nations comme signe pour marquer le retour du Seigneur. Pendant que nous disons Maranatha, pour nous souvenir que le Seigneur est en route, il arrive. Nous devons faire pour que ce signe s'accomplisse. Qui évangélise pour que l'évangile touche tous les coins de la terre? C'est les chrétiens. Il faut que l'évangile soit annoncé à toutes les nations. Et quand le Seigneur annonçait ces choses, c'est lui seul qui voyait qu'il y aura Internet, il y aura les TIC bien développés qui vont permettre que l'évangile aille même là où personne n'est allé annoncer quelque chose. Donc, nous sommes en plein dans ces choses-là. On verra également un autre signe, l'abomination de la désolation. Bon, là, il s'agit des gens qui vont profaner le temple. Les commentateurs disent qu'il ira dans le temple et s'installer et se proclamer Dieu. Il s'agit, bien sûr, des antichrists. Après cette prédiction, Jésus exhorte à la vigilance. Il donne des avertissements. Il souligne que c'est à cause des élus choisis par lui que ces jours de détresse sont abrégés. Et il conclut en disant, il leur a tout dit au verset 23, avant que ne commence notre texte. Je vous ai tout dit. Revenons donc à notre texte. Ces signes qu'on voit dans le ciel, qu'est-ce qu'elles signifient? Versets 24 et 25. Mais je voudrais d'abord faire une petite précision sur ce qu'on appelle signe. Dans ce langage, le signe ici, c'est un symbole qui le plus souvent se rapporte à un acte accompli par Dieu et porteur d'un message. Le signe peut être un miracle, un prodige ou une autre chose. Les signes ont cette fonction: amener à la connaissance de Dieu, protéger, faire naître la foi ou augmenter la foi, rappeler ce que Dieu a fait par le passé pour renforcer la foi, servir de signe pour l'alliance entre Dieu et son peuple. Je vais donner quelques signes. L'arc-en-ciel, par exemple, après le premier jugement, où Dieu a emporté par les eaux tout sauf Noé et sa famille, il y a eu le signe de l'arc-en-ciel. Avec Abraham, il y avait le signe de la circoncision. Avec Moïse, il y avait le signe du sabbat, ainsi de suite. Le signe sert aussi d'avertissement au peuple. Le signe vient aussi confirmer le message de Dieu. Nous disons que des prodiges, les miracles vont s'accomplir pour attester que l'évangile que vous avez prêché vient de Dieu. Ainsi, les messages des prophètes sont aussi des signes. Dans notre passage, on voit le soleil s'obscurcir, la lune ne brille plus, les étoiles tombent du ciel. Les puissances même qui sont dans les cieux sont ébranlées. Ces puissances, c'est des puissances ténébreuses, elles sont ébranlées. Or, le soleil, la lune, les étoiles étaient considérées dans les milieux juifs comme des signes, ayant la fonction d'indication du temps. Nous le voyons depuis Genèse, le premier chapitre de Genèse. Le rôle, au fait, quand Dieu a créé les astres et autres, il a dit que le soleil, la lune et les étoiles sont des luminaires. Donc, Jésus répondant dit, il y aura des grands signes dans le ciel, des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Ça, c'est dans le texte parallèle de Luc 21, verset 25. Ces signes-là annoncent le retour de Jésus. Si le soleil ne brille plus, la lune n'éclaire plus, les étoiles tombent, c'est qu'il n'y a plus rien. L'homme, quand tout cela se passe, l'homme est dans les ténèbres, l'obscurité. Il n'y a plus rien pour le guider. Le monde est privé de la lumière. Ce qui suggère, ceci ne suggère pas que c'est quelque chose de négatif. Non. Soleil et lune sont présentés dans Genèse 1, nous l'avons dit, pour séparer la nuit du jour. Quand ils ne sont plus, la nuit et le jour sont confondus. Ça veut aussi dire, comme ils servaient à marquer les jours et les années, il n'y a plus d'années, il n'y a plus de jours. La conséquence sur l'homme, l'homme devient intemporel. Il n'y a plus de temps. Notre temporalité disparaît. Si ce qui marque le temps n'est plus, ça veut dire que nous sommes intemporels. Il n'y aura rien pour marquer le temps. C'est le moment-là que le Fils de l'homme choisit pour revenir. Donc, bien-aimé, sois intelligent. Sois intelligent, fais attention aux signes. Il y a déjà les faux prophètes, les faux messies. Même lors de la présidentielle, parmi les candidats, même s'ils n'ont pas atteint les élections, il y avait une fausse messie. Une dame qui est candidate à la présidence qui disait qu'elle est le messie que Dieu a envoyé pour libérer. Ça veut dire qu'ils sont là, ils sont nombreux. Et on dit, le passage dit qu'ils peuvent même séduire, si c'était possible, les élus. Nous devons discerner ces signes. Pour un signe, voici comment. Si un signe contredit la parole de Dieu, il faut le rejeter. C'est ce que nous dit Deutéronome 13. Il faut le rejeter. Si le signe vise à glorifier l'homme ou à lui donner des avantages, il faut se méfier de ces signes. Les miracles authentiques manifestent la grandeur et la sainteté de Dieu. Par contre, il y a des miracles et des prodiges qui ne viennent pas de Dieu, que le diable peut fabriquer. Ça, c'est clair. Quand on dit que Marie est apparue dans un arbre à tel endroit, ainsi de suite, peut-être que je ne suis pas dans ce secret-là, mais ça, c'est un signe pour lequel il faut se méfier. Et il y en a comme ça de nombreux signes. Même un démon peut se manifester quelque part. Il faut pouvoir distinguer qui produit le signe. À notre époque, nous sommes vraiment proches de la fin. Les produits mensongers abondent dans le monde religieux et même dans le monde occultiste. Nos contemporains aiment évoquer la fin du monde pour faire peur ou bien pour se mettre dans des calculs qui n'ont pas de sens. Le Seigneur dit qu'un jour est comme 1000 ans, 1000 ans comme un jour. Quand il considère que c'est un jour, vous allez savoir comment. Quand il considère que c'est 1000 ans, ce qu'il a appelé jour, vous allez savoir comment. Donc ça ne sert à rien de calculer. Le verset dit que ces signes ne sont que des transitions. Elles ne font qu'annoncer l'événement principal, qui est le retour du Fils de l'homme. Vraiment, que le Seigneur nous aide, qu'il nous accorde une grande foi. Une foi qui puisse recevoir les véritables signes qui viennent de lui, ainsi que le discernement pour repousser les pièges de l'ennemi. Parlant de ce retour, il dit lui-même, il se donne le titre de Fils de l'homme. Pourquoi est-ce qu'il s'identifie ainsi à l'homme? Au fait, le Seigneur est proche de nous. Il est proche de ceux qui sont perdus. Il le fait pour s'identifier aux perdus, qu'il vient chercher et sauver. Ce verset décrit le Fils de l'homme apparaissant sur les nuées après la grande tribulation et les signes cosmiques qui ont été décrits dans la première partie, qui n'était pas dans le passage que nous commentons. Ceci va se passer avant l'enlèvement. L'enlèvement des chrétiens. Ça, c'est ce que le texte, ce qu'on peut tirer du texte de Jean. Mais je dis que ces événements, en termes chronologiques, ne se passent pas comme ça. Je vais y revenir. Le Seigneur vient pour juger les vivants et délivrer son peuple, le peuple fidèle, établir la justice sur la terre. Dieu lui a remis tout jugement. Il vient juger les méchants. Il vient juger les antéchrists. Il vient juger Satan. Parlant du rassemblement des élus, il va envoyer les anges pour rassembler les élus de Dieu. Ce que nous lisons au verset 27. Il s'agit de ceux qui sont sauvés de tous les âges, y compris ceux qui sont déjà dans le sein d'Abraham et ceux qui seront encore vivants lors de son avènement. Matthieu 13, verset 40. Nous devons aussi comprendre pourquoi le Seigneur Jésus a utilisé l'enseignement du figuier dans ce texte. Le figuier, c'est une plante de la famille des Moracées qui peut atteindre 6 à 9 mètres. C'est un arbre dont le fruit est beaucoup apprécié en Orient. Et on dit, à un certain moment, il ne produit plus. Et c'est l'un des éléments essentiels de la nourriture en Orient. Nous le lisons dans 1 Samuel 25, verset 18. On l'employait aussi, si vous vous souvenez d'Ézéchias, on l'employait aussi pour soigner les gens. Et Jésus utilise la comparaison avec les différents aspects du figuier en fonction de la des saisons de l'année pour nous instruire. Lorsque les feuilles du figuier poussent, on sait que l'été est proche. Donc, de même que ça se passe pour le figuier, nous devons discerner et comprendre que lorsque nous verrons les événements que nous avons cités, nous saurons que le Seigneur est à la porte. Voilà ce que nous dit le texte. En cherchant maintenant à reclasser les événements pour permettre une bonne compréhension, voici comment les choses vont se passer. Il y a d'abord une période qu'on appelle le temps des nations. Le temps des nations a commencé et il va s'achever lors de l'enlèvement. Après l'enlèvement, il y a une période de 7 ans qu'on appelle le temps d'Israël. Israël va passer par la grande tribulation et quelques-uns parmi le peuple d'Israël vont croire malgré la grande tribulation. Bon, ensuite, les 7 années, pendant 7 ans, le Saint-Esprit n'agit plus sur la terre. Vous comprenez que dès qu'il y a enlèvement, le Saint-Esprit n'agit plus sur la terre. Est-ce que l'Église fonctionne? L'Église a été inaugurée le jour que le Saint-Esprit est descendu. Si le Saint-Esprit n'est plus en train d'influencer les choses sur la terre, qu'est-ce qui va se passer? Imaginons un peu. Donc, pendant les 7 ans, pendant ce temps, les chrétiens qui auront été enlevés seront dans la fête, une fête de 7 ans qu'on appelle les noces de l'agneau. Et ils auront des trônes. Et je voudrais dire que après les 7 ans, ils vont revenir. Jésus va revenir. C'est de ce retour-là qu'il est réellement question. Parce qu'il reviendra pour régner sur la terre pendant 1000 ans. Ce qu'on a appelé millénium. Et pendant les 1000 ans, Satan sera en prison. Mais malgré le fait que Satan soit en prison, les gens ne vont pas croire en Dieu comme on pense. Les gens ne vont pas croire en Dieu. Il y aura une partie, une petite partie qui va croire. Mais l'autre, ce sera difficile. Donc, on appelle ça le jugement dernier. Quand, après cette période de 1000 ans, le Seigneur vient maintenant comme le juge. Il vient pour juger. Et quand vous lisez Pierre, on va dire que la terre va disparaître. Ce sera le temps de jugement. J'évoque ceci pour dire que généralement quand il y a les enseignements, les jeudis, il faut venir. On a exposé ici un jeudi sur ce thème. Mais il y avait très peu de gens. Or, nous vivons ces temps dont on parle. Et les signes qu'on décrit sont en train de se passer depuis la destruction du temple. Ça continue. Les catastrophes, les guerres et beaucoup d'autres choses que les gens n'avaient même pas pensé. Bien-aimés, cette fin des temps inaugurée par l'effusion du Saint-Esprit pour les derniers jours, dans Actes 2, verset 17. C'est des temps difficiles où les gens se moquent de l'évangile. Les antéchrists se multiplieront. Avec l'arrivée de Jésus-Christ sur terre, ce temps avait commencé. Mais Jésus-Christ avertit de ne pas faire des calculs. Mais il nous dit d'être intelligent. En attendant son retour, je donne deux directions pour l'intelligence. Les chrétiens, lorsqu'ils se réunissaient avant, conscients de ça, pour la Sainte Cène, ils répétaient « Maranatha, le Seigneur vient bientôt ». Cela replace la Sainte Cène au centre de l'attente de la foi. Lorsque nous prenons la Sainte Cène, le Seigneur dit qu'on le fait en mémoire de lui. En mémoire signifie en aspirant que le Seigneur revienne très, très vite. Donc, faisons attention lorsqu'on prend la Sainte Cène, de ne pas le prendre comme un profane. Prenons-le avec foi. La deuxième chose, c'est même celui qui jusqu'ici croyait qu'il est un chrétien spectateur doit se réveiller pour jouer le rôle que le Seigneur lui donne. Quand tu deviens un enfant de Dieu, le Seigneur t'assigne un rôle dans son église, parce que c'est le sacerdoce universel. Et il attend de nous que l'évangile atteigne tous les coins de la terre pour marquer son retour. Si tu ne prends pas ta part à la tâche, quand il va revenir, tu vas faire comment? Donc, les chrétiens d'aujourd'hui vivent ces temps et espèrent que vivement le Seigneur revienne. S'ils ne le font pas, c'est un signe qu'ils ont perdu la substance de la foi. Ceux qui attendent vraiment le retour du Seigneur s'efforcent de gagner les autres à Christ. Bien-aimés, nous pouvons conclure en disant, parler de la fin des choses, des temps de la fin, ce n'est pas pour nous faire peur. Ce n'est pas pour encourager ceux qui aiment calculer. Au contraire, c'est pour renouveler et réveiller notre sens de vigilance spirituelle. Pour nous rendre prêts. Parce que le maître viendra comme un voleur à l'heure où on ne s'attend pas. Par effet surprise. Aussi, pour nous permettre d'attendre ce temps avec sérénité, surtout que, comme personne ne sait ni le jour ni l'heure, et le Père seul, bon, et personne non plus ne sait le jour où il va partir, hein. C'est pas tout le monde qui va arriver à l'enlèvement. Nous voyons, tous les samedis, nous partons enterrer les gens, non? Voilà. Ça veut dire que, quand on parle de la fin, ça peut être ton départ sur terre. Ça peut être aussi l'enlèvement si ça te rencontre. Donc nous devons nous préparer chaque jour. Ce n'est pas le genre de choses qu'on doit attendre, que j'attends jour J moins pour se préparer. Voilà, bien-aimés, ce que j'ai voulu que nous partagions.